Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 9, verset 1er, nous lisons une belle histoire, l'histoire de Mephibosheth avec David. David dit : Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit : Es-tu Tsiba ? Elle répondit : Ton serviteur. Le roi dit : N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? Et Tsiba répondit au roi : Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit : Où est-il ? Et Tsiba répondit au roi : Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit : Mephibosheth. Et il répondit : Voici ton serviteur. David lui dit : Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit : Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit : Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi : Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Cette belle histoire se déroule à l'apogée du règne de David. David est bien établi comme roi. Il domine sur toutes les nations qui sont autour. Son royaume est sécurisé. Au moment où certains rois élimineraient leurs derniers ennemis et traiteraient les vieux dossiers, David décide de faire du bien à ceux qui restent encore vivants de la famille de Jonathan, fille de Saül. Le Nouveau Testament nous dit que la grâce est venue par Jésus-Christ. Mais ici, dans l'Ancien Testament, nous avons avec cette histoire l'une des plus belles illustrations de la grâce. Cette histoire illustre d'abord ce qu'est la grâce. La grâce signifie faveur imméritée. Elle consiste à faire du bien et à traiter les individus indépendamment de leur mérite, uniquement par amour et par bonté. David avait la possibilité d'éliminer tous les contestataires du moment, les revendicateurs de l'époque, les gêneurs. Dans ceux qui auraient pu constituer une menace, il y avait bien évidemment les quelques survivants de la famille de Saül. Alors que certains rois auraient profité de la situation pour éliminer toute cette famille, David agit à l'opposé de la logique humaine et des méthodes humaines. Il agit à l'opposé de l'époque, mais aussi de toujours. Il décide de faire du bien à Mephibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül. Dieu serait aussi en position d'éliminer tous les contestataires, les provocateurs, les moqueurs, les incrédules, les débauchés, les pécheurs que nous sommes. Mais il a choisi aussi de nous faire du bien. Il a décidé de nous traiter indépendamment de nos mérites et de nos péchés. Il a choisi de nous faire grâce en proposant d'effacer nos péchés, en nous permettant de changer de vie et en nous offrant le salut gratuitement. Cette histoire, elle illustre aussi à qui Dieu veut faire grâce. Qui était ce Mephibosheth ? Il faisait partie des ennemis de David, ou c'est ainsi qu'on pourrait le cataloguer. Petit-fils de Saül, fils de Jonathan, il avait grandi avec l'idée que David était le responsable de la mort de ses parents. Ce n'était pas vrai, mais c'est certainement l'idée qu'on lui avait inculquée. Mephibosheth était ennemi de David par sa position familiale. Aussi, on imagine sa frayeur quand il est convoqué auprès du roi David. Il se dit : Ça y est, Mon heure est arrivée. Il va me couper la tête, comme cela a été fait à mon grand-père Saül ou à mon oncle Ichibochet. Je précise que ce n'est pas David qui était l'auteur de ces crimes. Mephibosheth était aussi infirme. Son infirmité se voyait quand il marchait et devait lui attirer le mépris, les moqueries. Mephibosheth avait certainement grandi avec l'idée que c'est David qui était responsable de son infirmité, puisque c'est en fuyant que sa nourrice l'avait fait chuter et qu'il était devenu handicapé. J'imagine Mephibosheth naviguer intérieurement entre toutes sortes de sentiments, la colère, l'amertume, la honte. Son nom a le mot « honte » comme racine, peut-être la honte d'être le petit-fils de Saül, la honte de l'handicap. Autre émotion qui pouvait l'atteindre, le désespoir, la crainte. À mon avis, il ne devait pas sortir souvent, ce qui sont cause de scandale, comme les criminels font vivre à leur famille un enfer. Mephibosheth nous parle de vous et de moi. La Bible dit qu'à cause de notre péché, nous étions ennemis de Dieu. Je vous cite deux textes du Nouveau Testament. Colossiens chapitre 1 verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Et puis Romains chapitre 5 verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ces deux textes montrent que les hommes sont ennemis de Dieu et qu'ils peuvent ne plus l'être. Ennemis de Dieu à cause de leur péché. Mais ces deux textes nous parlent aussi de réconciliation. Peut-être que vous n'avez jamais considéré Dieu comme un ennemi. Peut-être que vous n'avez jamais blasphémé. Mais peut-être qu'aussi vous l'avez considéré comme un ennemi. Vous l'avez peut-être accusé aussi de tous les malheurs de la terre. Vous avez peut-être levé le poing contre lui. Mais quelle que soit votre manière de raisonner jusque-là, la Bible déclare que tous les hommes sont ennemis de Dieu. Votre péché vous a rendu ennemi de Dieu. Et le péché, il a fait aussi de nous des infirmes, des boiteux, des personnes inconstantes, instables, malades dans leur âme, colériques, angoissées, désespérées, mélancoliques. La grâce, c'est pour chacun d'entre nous. C'est pour les plus mauvais, et c'est finalement avec eux qu'elle marche le mieux. La grâce, c'est pour tous. Personne n'est exclu de la grâce de Dieu, même les pires. Cette histoire nous permet aussi d'entrevoir ce que la grâce produit. Je dis bien entrevoir parce que la grâce produit beaucoup d'autres choses qui ne sont pas mentionnées dans cette histoire. Je voudrais souligner au moins deux choses de ce que la grâce produit. La grâce produit une restauration. David a rendu à Mephibosheth tous les biens qui appartenaient à son père et à son grand-père. David lui a redonné tout ce que sa famille avait perdu, tout ce que on leur avait volé. Comme ils n'étaient pas en mesure de défendre leur roi, certains s'étaient servis. Mephibosheth s'est approché de David et s'attendait à ce qu'on lui mette un sac sur la tête et à ne plus à ressortir mort. Et finalement, il ressort avec la possibilité de retrouver la vie et la qualité de vie qu'il avait eue dans sa petite enfance. Quand Jésus nous accorde sa grâce, il devient possible de retrouver une vie que l'on a perdue. Il devient possible de vivre comme une réinitialisation. La Bible nous enseigne que Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés innocents. Il nous a créés purs. Mais le péché est entré. Il nous a abîmés. Il nous a déformés. Mais quand Jésus vient dans notre vie, il devient possible de vivre autrement, de retrouver le chemin de la ressemblance à l'image de Jésus-Christ. Loin du péché, Jésus est celui qui nous transforme. Il est le seul qui peut changer notre cœur. Et puis, autre effet de la grâce. La grâce, elle change notre position et nous ouvre des droits. David a fait comprendre à Mephibosheth qu'il allait le traiter comme l'un de ses fils. Au verset 11, il est dit qu'il mangeait à la table du roi comme l'un des fils du roi. Tous les jours, il pouvait venir manger à la table du roi. Quand Jésus devient notre sauveur, nous changeons de position. Nous devenons fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, avec tous les avantages et les privilèges qui découlent de cette nouvelle position. Notamment, la possibilité de venir à lui en tout temps, en toute situation. Lors de la guerre de sécession aux États-Unis, entre 1861 et 1865, la Maison Blanche, résidence du président Abraham Lincoln, était chaque jour assaillie de gens qui désiraient le voir. Il y avait de tout, des représentants du gouvernement, des parlementaires, des généraux, des diplomates, mais aussi toutes sortes de gens désireux d'avoir une entrevue et qui espéraient obtenir une faveur pour eux, pour un apparent ou un ami. Un secrétaire prenait leur nom et revenait et disant « Il vous faut attendre un moment, parfois un ou deux jours. Le président ne peut pas vous recevoir tout de suite. » Au milieu de cette foule, un petit garçon s'était faufilé, passant en courant devant la sentinelle et entra sans frapper dans le bureau du président Lincoln. Les gens qui attendaient manifestaient leur mauvaise humeur de voir cet enfant qui entrait ainsi sans manière, au lieu d'attendre son tour, comme eux. Mais un des secrétaires leur dit, c'est Ted, le fils du président, et son père a donné la consigne, n'empêchez pas Ted de venir vers moi. Lorsque nous devenons fils de Dieu, en Jésus-Christ, nous avons le privilège d'avoir un libre accès, non auprès du président des États-Unis, mais auprès du roi des rois, de notre Père Céleste, du Dieu vivant et vrai, du Créateur de l'univers, celui qui a donné son Fils Jésus-Christ pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est pas seulement le chemin pour être sauvé, c'est aussi le chemin pour s'approcher de Dieu. Je souligne que Méphibosheth est resté boiteux. C'est bien précisé à la fin de cette histoire. Mais je suis convaincu qu'il vivait différemment son handicap. Quand Jésus nous sauve, nous restons des pécheurs. Mais notre cœur change, notre position change, parce que la grâce est passée dans notre vie. Cette histoire, elle nous montre aussi ce que Dieu nous demande en retour. Méphibosheth n'a pas choisi de se rendre auprès du roi David. Il a été convoqué et on est venu le chercher. Mais quand David lui a fait part de son intention de le bénir, de lui faire du bien, Méphibosheth pouvait accepter ou refuser. Il pouvait refuser et décider de rester dans la situation actuelle. Il pouvait refuser de venir manger à la table du roi parce que peut-être par crainte de supporter le regard des uns et des autres. Il pouvait refuser par orgueil afin de ne pas être redevable envers David. Il pouvait refuser par méfiance, il pouvait, mais il a accepté. La grâce ne se monnaie pas, ne se marchande pas, ne s'échange pas, elle ne se paye pas, mais elle s'accepte ou elle se refuse. Dieu te propose de te changer, de te transformer, de te laver de tes péchés, de te sauver, mais il ne le fera pas si tu le refuses. Une autre histoire qui s'est passée aux USA, au XIXe siècle, un homme coupable de meurtre avait été condamné à mort. Mais ses proches avaient plaidé auprès du président américain de l'époque, Abraham Lincoln, et avaient obtenu pour lui une grâce présidentielle, signée par le président des États-Unis. Mais lorsqu'on informa le condamné, celui-ci refusa. Que faire alors? La Cour suprême des USA s'est réunie alors et a statué. Et elle a décidé qu'une grâce accordée, pour être valable, doit être acceptée par celui à qui elle a été faite. Du coup, la grâce présidentielle fut annulée et cet homme fut condamné à mort. Dieu te demande de recevoir simplement Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Accepter et non refuser. Oui mais, c'est refuser. Je verrai plus tard, c'est refuser. Je vais y réfléchir, c'est refuser. La grâce, c'est aujourd'hui qu'il faut l'accepter. Accepter la grâce, c'est accepter ce verdict que nous sommes pécheurs. Ce n'est pas un non-lieu, ce n'est pas un acquittement. Mais c'est accepter que Christ a pris le châtiment, notre condamnation sur lui. Cette histoire nous apprend aussi ce qui la rend possible. Pourquoi David voulait-il faire du bien à la famille de Saül? C'est clairement précisé à cause de Jonathan. David et Jonathan s'étaient liés l'un à l'autre. Ils s'étaient engagés mutuellement à prendre soin d'eux et de leur famille. Et ils avaient fait une alliance entre eux. Et David s'en est souvenu et a honoré son engagement quand il a pu le faire. Il y a quelque chose aussi qui a été fait, comme une alliance dont Dieu se souvient. Dieu se souvient non pas de Jonathan, mais de Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus, grâce à ce qu'il a fait sur la croix, que Dieu peut te faire du bien aujourd'hui. Le pardon des péchés, le changement dans ta vie, son secours, ta restauration, la délivrance dans ta vie de tout ce qui t'emprisonne, sa présence, le baptême dans le Saint-Esprit, la guérison physique, sa protection, tout cela est rendu possible par la réconciliation que Jésus a opérée sur la croix. Jésus dira à Nicodème, ce vieillard qui est venu voir Jésus de nuit, « Il faut que tu naisses de nouveau. » C'était indispensable, absolument nécessaire. Mais Jésus a ajouté, « Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Montrant ainsi que la grâce que Jésus veut manifester dans nos vies est possible et rendue possible par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Enfin, cette histoire nous rappelle combien de temps la grâce dure. Méphibosheth mangea à partir de ce jour, tous les jours, à la table du roi. La grâce, c'est un accès permanent, c'est un présent continu. Elle n'est pas l'accès d'un jour, elle n'est pas la faveur d'un jour. Elle est un accès illimité et une faveur permanente. David la connaissait bien pour lui-même. Dans le psaume 23, il a écrit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Je termine en disant ceci. La grâce, c'est ce qui rend unique l'Évangile et qui le différencie de toute autre religion. La grâce est venue par Jésus-Christ, qui s'est fait homme et qui a été crucifié et ressuscité pour nos péchés. Et elle t'est proposée. Tu peux l'accepter ou la refuser. Accepter, c'est être sauvé. Refuser, ça veut dire rester perdu dans ses péchés. Moi, j'ai fait mon choix. J'ai accepté Jésus-Christ. Voulez-vous aussi l'accepter? Accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Je prie maintenant pour vous. Seigneur, la grâce, c'est quelque chose de grand, qui nécessite qu'on s'y arrête, qui nécessite de la comprendre. Mais un jour, il faut l'expérimenter, la vivre dans son cœur. Elle a une source. Jésus a donné sa vie sur la croix. Il est mort et il est ressuscité pour le pardon de nos péchés. Il a pris notre place. Je prie pour que, parmi ceux qui écoutent ce message, qui l'ont écouté, il y ait cette décision d'accepter la grâce qui est en Jésus-Christ. Merci de manifester ta bonté, de communiquer ta grâce et toutes celles qui peuvent en découler. Transformation, libération, guérison. Seigneur, étends ta main. Au nom de Jésus, Amen.